Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une ce soir en France, des mesures contre le djihadisme. 3 jours après l'assassinat d'un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine près de Paris, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce son souhait de dissoudre, c'est-à-dire de supprimer, plusieurs dizaines d'associations. Et ce soir, le Sénat a voté en faveur d'une proposition de loi portée par la droite pour lutter contre l'islamisme radical.
Le retour de la gauche en Bolivie, le socialiste Luis Arce a été élu dès le premier tour. Il était le candidat du parti d'Evo Morales, l'ex-président qui vit en exil en Argentine et qui a annoncé qu'il rentrait au pays tôt ou tard.
Dans ce journal en français facile également, les révélations de l'ONG Human Rights Watch sur les conditions de détention en Corée du Nord.
Et puis, le point sur la pandémie de coronavirus avec de nouvelles mesures restrictives annoncées aujourd'hui.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
3 jours après l'assassinat d'un enseignant près de Paris, l'heure est à la réponse des autorités romaines.
Oui, plusieurs décisions ont été prises aujourd'hui. D'abord, des opérations qui ont été menées ce matin contre des individus et associations proches des milieux djihadistes. C'est le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui dirige ce dossier. Il annonce également son intention de dissoudre plusieurs dizaines d'associations, c'est-à-dire de supprimer l'existence de ces associations. Et puis, dernière décision prise ce soir, le ministre de l'Intérieur qui annonce avoir demandé la fermeture de la mosquée de Pantin près de Paris. Elle avait notamment fait suivre sur les réseaux sociaux une vidéo dénonçant le cours sur la liberté d'expression présenté par l'enseignant assassiné et au cours duquel avaient été présentées des caricatures de Mahomet. Et puis ce soir, le Sénat a voté en première lecture une proposition de loi contre l'islamisme radical. C'est la droite qui portait ce texte et qui entend là montrer sa détermination sur le sujet. Anne Souhaitemont.
229 voix pour, 23 abstentions. Le Sénat a voté ce lundi soir une proposition de loi de sa majorité de droite contre l'islamisme radical. Objectif, inscrire dans la Constitution la prééminence des règles de la République. Un vote contre l'avis du gouvernement, mais qui a toutefois peu de chances de poursuivre son parcours parlementaire compte tenu de la majorité marcheuse à l'Assemblée. Activisme de la droite sénatoriale donc, mais aussi du groupe LR à l'Assemblée nationale. Chef de file des députés de droite, Damien Abad y est allé lui aussi de ses propositions. Dans le journal Le Parisien, le député se prononce pour la création d'une épreuve sur la laïcité au brevet, d'un service national pour les jeunes de 4 à 6 mois ou encore d'un numéro vert pour que les enseignants signalent toutes les atteintes à la laïcité. Dernier outil de pression de la droite sur le gouvernement, dégainé cette fois par le patron du parti, un projet de référendum d'initiative partagée pour lutter contre l'islamisme. Le texte sera déposé devant le Parlement si les mesures prises par le gouvernement sont insuffisantes, prévient Christian Jacob.
Anne Souhaitemont.
Et puis dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, 15 personnes sont ce soir en garde à vue.
Oui, les enquêteurs cherchent à savoir si le meurtrier a pu bénéficier de complicité. Rappelons que le meurtrier a été abattu par la police peu de temps après les faits, vendredi soir. Et puis un hommage national sera rendu mercredi à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne à Paris, en présence du chef de l'État, Emmanuel Macron.
L'ancien président de la Bolivie, Evo Morales, annonce son retour.
Oui, tôt ou tard, nous allons rentrer en Bolivie, a déclaré Evo Morales lors d'une conférence de presse à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Et c'est une déclaration qui intervient quelques heures après l'annonce de la victoire du candidat de son parti à la présidentielle. Luis Arce l'emporte en effet dès le premier tour, avec plus de 52% des voix. Evo Morales avait fui en Argentine après sa démission suite à l'élection controversée de 2019. Depuis, la présidence par intérim en Bolivie était occupée par Jeanine Agnès, opposante à Evo Morales. Donc avec l'élection de Luis Arce, c'est le retour de la gauche en Bolivie. Son portrait avec Romain Lemaresquier.
Il incarne la continuité pour les partisans d'Evo Morales. Luis Arce en a d'ailleurs été son fidèle lieutenant pendant de nombreuses années après avoir dirigé la Banque Centrale Bolivienne, ministre de l'Économie et des Finances Publiques entre 2006 et 2017, ainsi que brièvement en 2019. Cet économiste âgé de 57 ans, issu de la classe moyenne, est considéré comme l'architecte du miracle économique bolivien. Il faut dire que les indicateurs ont bien changé pendant qu'il était aux affaires, avec un PIB multiplié par 4 ou encore une pauvreté réduite de moitié. Ses détracteurs estiment qu'il a su profiter d'un marché des matières premières en hausse. La Bolivie, pour rappel, dispose de réserves conséquentes de gaz, de lithium, de fer et de cuivre. Mais surtout, ses détracteurs l'accusent de n'être qu'une marionnette d'Evo Morales. Pour faire taire les critiques, le candidat du mouvement vers le socialisme, communément appelé le MAS, compte former un gouvernement d'union nationale pour sortir le pays d'une crise politique, mais également économique et sanitaire. Lui qui a vaincu le cancer est peut-être à même d'apaiser une société bolivienne très divisé depuis le départ d'Evo Morales.
Et sa première réaction ce matin, quelques minutes après l'annonce de son élection, la Bolivie a renoué avec la démocratie, déclare Luis Arce.
Les révélations à présent d'une ONG sur le système judiciaire en Corée du Nord.
Oui, révélations qui font scandale. Signé Human Rights Watch, dans un rapport, on y apprend que les détenus sont traités, je cite, « pire que des animaux ». L'ONG évoque la torture, les agressions sexuelles, l'humiliation, les aveux sous la contrainte. Difficile d'enquêter dans ce pays, la Corée du Nord, connu comme le plus fermé au monde, mais Human Rights Watch s'appuie sur les témoignages de 22 anciens prisonniers et les témoignages également d'anciens responsables nord-coréens. Écoutez les explications de Phil Robertson, c'est le directeur adjoint de Human Rights Watch pour l'Asie.
On ne parle pas ici de prisonniers politiques ou d'ennemis de l'État, mais d'infractions de droit commun, comme des trafics de marchandises, des tentatives de se rendre en Chine ou même la possession d'un téléphone portable chinois. Ces gens ont vécu des conditions de détention effroyables, soumis par exemple à la torture pour passer aux aveux. Plusieurs personnes ont aussi été victimes de violences, voire de viols. Des détenus nous ont raconté qu'ils étaient contraints de s'agenouiller les jambes croisés jusqu'à 16 heures par jour. Pour certains, la seule nourriture en détention, eh bien, c'est 80 grammes de maïs bouilli par jour. Un régime au bord de la famine, littéralement. La Corée du Nord doit vraiment admettre que son système de détention provisoire est truffé d'actes de torture. Le pays doit changer cela et demander de l'aide à la communauté internationale afin de créer un système respectueux des droits humains et qui ne sera pas directement sous le contrôle du Parti des travailleurs de la Corée du Nord.
Philippe Robertson, directeur adjoint de Human Rights Watch pour l'Asie, interrogé par Yelena Tomic.
En Europe, de nouvelles mesures en ce début de semaine pour lutter contre la pandémie de coronavirus.
Oui, dans le sillage de la France, hein, où des couvre-feux nocturnes sont en vigueur depuis le week-end dernier, la Slovénie va adopter cette mesure à partir de demain mardi. En Slovénie, où l'heure est au reconfinement, comme d'ailleurs dans plusieurs autres pays d'Europe. On fait le point avec Béatrice Leveillé.
Toute l'Europe est balayée par la deuxième vague. Au Pays de Galles, une des quatre nations du Royaume-Uni, un pare-feu est mis en place avec l'instauration d'un confinement de 2 semaines, comme au mois de mars. Confinement également en Slovénie et en Suède pour la première fois avec des confinements locaux. Les rassemblements privés seront limités à un maximum de 6 adultes à l'intérieur et 12 personnes à l'extérieur. Les Autrichiens sont appelés à tout faire pour empêcher un second confinement. L'Italie, le pays européen le plus touché par la première vague, avec 414 000 cas et 36 500 décès, a passé le cap des 10 000 nouveaux cas par jour. Le gouvernement impose désormais des mesures strictes. Les fonctionnaires passent au télétravail pour alléger les transports publics. Toutes les fêtes et foires locales sont annulées. Les maires pourront décider d'imposer des couvre-feux à 21h pour prévenir la flambée des cas. Quant aux Italiens qui ne portent pas de masque dans l'espace public, ils risquent une amende de 1 000 euros.
Voilà, Béatrice Leveillé. Et puis en France, on a appris aujourd'hui que la première dame du pays, Brigitte Macron, était cas contact. Alors cas contact, ça veut dire qu'elle a été en contact avec une personne qui a développé les symptômes du coronavirus. Elle va donc rester à l'isolement pendant 7 jours. C'est son entourage qui l'annonce. Elle n'a pas développé de symptômes, est-il précisé. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Évidemment, vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Il est bientôt 22h10, ici à Paris, 2h de moins en temps universel. Merci Mehdi.
Merci Romain.
Et merci à Claude Battista qui était ce soir à la réalisation de cette édition. Très bonne fin de soirée à l'écoute de RFI.